Conférence du premier soir.
Et celui-ci répondit lui-même. Tout d'abord, il nous appartient d'essayer de comprendre de quel devarim, de quel propos il peut s'agir ici. Tout d'abord, la première interprétation, la plus simple, la plus évidente, consiste à relier ce verset, ce premier verset du chapitre 22, à ce qui précède immédiatement, c'est-à-dire l'alliance avec Avimelech. Vayavor Abraham be'eretz plishtim yamim rabim, vayi achar advarim ha'ele. D'autant plus que cette interprétation, qui consiste à relier l'épreuve, le Nissayon, d'Abraham et d'Isaac, avec l'alliance avec Abimelech, peut avoir comme justification une autre expression, va dire Ahar Advarim Aele, ce fut après ses propos, et c'est très exactement après la guerre menée pour délivrer les habitants de Sodome, et en particulier Lot, et la première révélation de Dieu à Abraham, va dire Ahar Advarim Aele. Et le texte termine par le verset très important, Vehemin Bashem va yarchever à l'autre d'accord. Abraham eut foi en Hachem, qui le lui imputa à justice. Par conséquent, première interprétation, elle consiste à dire que l'épreuve suit immédiatement le sentiment de sécurité qu'a pu apporter pour un bref instant l'alliance conclue avec Abimelech et par conséquent le fait que Israël, Abraham, Isaac et ensuite Israël pouvaient légitimement s'installer dans le pays puisqu'il y avait alliance ou l'Nimi ou l'Nirdi ainsi qu'à mon fils, mon petit-fils et ma descendance. Nous allons voir finalement les choses par la suite ne sont pas aussi simples. Deuxième interprétation, et ce fut après ses propos de Varim, la deuxième interprétation que donne le Midrash, ce sont les propos du Satan, qui met en parallèle ce début du chapitre 22 de la Genèse avec le début du livre de Job, où le Satan dit à Dieu, ce n'est pas étonnant que Job et craignant Dieu, puisque tu lui as donné tous les bienfaits de la terre, tu lui as donné richesse, enfant, bonheur, et par conséquent, ce n'est pas pour rien que Job est craignant Dieu, et par conséquent, c'est le début de l'épreuve. En d'autres termes, après ses propos, c'est-à-dire la réflexion du Satan, disant que finalement, Abraham avait là un statut privilégié, puisqu'il y avait une alliance avec Dieu, et que Dieu l'a comblé de tous les bienfaits, en particulier en lui donnant Isaac. Et par conséquent, l'épreuve va commencer immédiatement après. Troisième interprétation, que l'on également le Midrash, il s'agit des propos de Ishmaël, le frère d'Israël. Ishmaël dit à Isaac, tu as été circoncis à 8 jours, tu n'avais par conséquent absolument aucune conscience, tu ne pouvais pas décider d'accepter l'accomplissement de cette mitzvah, alors que moi, j'avais atteint l'âge de 13 ans, c'est-à-dire l'âge de la majorité religieuse, et j'ai accepté, moi, d'être circoncis, et Isaac de répondre, eh bien, même si Dieu me demandait ma vie, je serais tout prêt à la lui donner immédiatement. Vahi achar advarim ha'ele, après ce propos, Dieu éprouva Abraham. Ce verset, ce n'est pas le temps de l'expliquer en détail, car ce n'est pas moi le conférencier, mais simplement je voudrais quelques notations d'introduction. Ce verset extrêmement difficile, quiconque est habitué à la structure du récit biblique, s'aperçoit que les mots suivants, Vahi achar advarim ha'ele, Veha Elohim Nissa et Abraham, Dieu éprouva Abraham, constitue une difficulté. une difficulté majeure. Car le lecteur du texte biblique sait par conséquent immédiatement qu'il s'agit d'une épreuve. Vers Elohim, Nissa et Abraham. Il s'agit là d'une épreuve. Aussi le texte fait un clin d'œil au lecteur en disant « N'ayez aucune crainte, ne vous faites aucun souci, c'est une épreuve, tout va bien se terminer. » Ce n'est pas le cas, généralement, dans le texte du récit biblique qui nous laisse jusqu'au bout partager les inquiétudes du héros biblique. J'en arrive au point qui me paraît important. Vayomer Elav Abraham, Vayomer Hineni. Et ce mot Hineni que je n'ai pas traduit, on traduit généralement me voici, est une clé de l'interprétation de l'herméneutique biblique. Chaque fois qu'il est dit Hineni, nous savons qu'il y a eu l'épreuve et que l'épreuve a été surmontée. La première interpellation de Dieu ne date pas d'Abraham, mais elle date d'Adam. Lorsque Adam et Ève avaient désobéi, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, Mithamer Bagan le Ruach Hayom, y aller dans le jardin d'Éden. Vayitra Hashem Elohim el Hadam, et le Seigneur Dieu appela Adam. Vayomerlo Ayeka, où es-tu? Et la réponse que l'on attend, que Dieu attendait, que le lecteur de la Bible attend, c'est Hineni, me voici. Mais Adam répond, Vayomer et Kolcha Shamaati Bagan, j'ai entendu ta voix dans le jardin d'Éden et je suis allé me cacher car je suis nu. Par conséquent, nous savons, dès le début du récit de la Genèse, que finalement, la réponse qui manquait de la part de Adam, c'était Hineni. Il y a eu, en quelque sorte, fuite devant les responsabilités, et nous pourrions en avoir la preuve en nous référant au terme de Hineni, à la première occurrence de ce terme, dans le récit biblique, puisque Hineni apparaît pour la première fois au moment de l'épreuve du déluge, Va'ani Hineni Mevi et Hamakul Maïm al Ha'aret, quant à moi, je vais envoyer le déluge sur la terre en châtiment. Immédiatement suivi, après le déluge, Va'ani Hineni Mekim et Beriti Techem, quant à moi, je vais accomplir la promesse, l'alliance que j'ai contractée avec vous. Et sur les 160 occurrences du mot Hineni dans la Bible, il s'agit la plupart du temps de Dieu. Dieu dit « Va'ani Hineni ». Or, il y a 4 occurrences au moins où c'est l'homme qui répond à Dieu en disant Hineni. Et dans les 4 récits, il s'agit d'une épreuve, d'une grave épreuve, qui est surmontée. L'épreuve est réussie. Une première fois, il s'agit bien évidemment d'Abraham. Et une interpellation double, au premier verset du chapitre 22, Vayomer Abraham, Vayomer Hineni, Dieu dit Abraham, et celui-ci répondit « Hineni ». Et quelques versets plus loin, au moment où il va porter la main sur Isaac, « Vayomer Abraham, Abraham, Vayomer Hineni ». Dieu, l'ange de Dieu, dit « Abraham, Abraham », répétition du nom de l'interpellé, et celui-ci répond « Hineni, Vayomer Al-Tishlach Yatra Elana, ne porte pas la main sur l'enfant ». Premier cas, par conséquent, c'est celui qui va être développé tout à l'heure. C'est le thème du séminaire sur la Hakeda, qui va donc nous occuper toute la semaine. Deuxième occurrence, il s'agit de Jacob. Et là aussi, en ce qui concerne Jacob, nous avons une première fois Vayomer Elai, Yaakov, Vaomar, Hineni. Jacob relate à Rachel et à Léa que l'ange de Dieu l'a appelé, Jacob, et ce dernier répondit Hineni. Et une seconde fois, lorsque on annonce à Jacob que Joseph, le fils qu'il croyait mort, perdu depuis si longtemps, est en vie, ensuite Dieu apparaît à Jacob, Vayomer, Yaakov, Yaakov, répétition du nom du patriarche, Vayomer, Hineni. Vayomer, Anochi Ha'el Elohe Avicha, Altira, je suis le Dieu de tes pères, ne crains rien, tu peux descendre en Égypte et je t'aiderai à revenir dans le pays de Canaan. C'est donc l'annonce, cette fois, non pas de la mort du fils, mais de l'épreuve de l'exil qui sera suivie par le retour. Troisièmement, troisième personnage, c'est Moïse. Moïse, au moment de la révélation du buisson ardent, Vayar Hashem qui sarle hot, Vayikra elav Elohim tochatne, Vayomer Moshe, Moshe, Vayomer Hineni. Dieu vit que Moïse s'était détourné pour aller voir, et il l'appela Moïse, Moshe, Moshe, et ce dernier répondit Hineni. Exode chapitre 3, verset 4. Et encore une fois, il montrait la similitude de la situation. Anochi Elohe Avira, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, celui qui fut sauvé des mains de Terah, qui voulait le tuer pour avoir détruit les idoles, je suis le Dieu d'Isaac, celui qui a failli mourir sous le couteau d'Abraham au moment de la Akeda, et je suis le Dieu de Jacob, celui qui fut sauvé des mains d'Ésaü au moment de la bénédiction qui a été donnée, comme vous le savez, à Jacob et non pas à Ésaü. Et ensuite, Vayomer, Raoraï qui est son ami, Asher ben Ephraim, j'ai vu l'esclavage de mon peuple en Égypte et j'ai décidé de le sauver et de le ramener dans le pays que j'ai promis au patriarche. Et enfin, je passe très rapidement, le quatrième personnage biblique, c'est Samuel. Et là, le texte est particulièrement révélateur, parce que, à l'époque de Samuel, c'était l'époque du Hasper Panim, c'était l'époque de l'occultation du visage divin. Et au début du chapitre 3 du premier livre de Samuel, le texte précise, « En ces temps-là, Bayamim Hahem, Devar Hashem Haya Yakar, Bayamim Hahem, En Chazon Nifra. » En ces temps-là, la parole de Dieu était rarissime et la révélation n'était pas répandue. Et alors à ce moment-là, Dieu appelle Shemuel, Vayikra Hashem El Shemuel, Vayomer, Hineni. Et le jeune Samuel court vers le grand prêtre Haïli, croyant que le grand prêtre l'a appelé. Le grand prêtre lui dit, Lech Shrav, va te recoucher, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Dieu appelle à nouveau Samuel. Samuel va de nouveau chez Haïli le grand prêtre. Haïli le grand prêtre lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Dieu appelle Bashlishi, une troisième fois, Shemuel, Shemuel. Et à ce moment-là, Haïli comprend que c'est Dieu qui appelle le jeune garçon, et il dit, lorsqu'on t'appellera, tu diras, Daber Hashem, ki shomea abdecha. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Mais lorsque Dieu dira à Shmuel, 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 le jeune Samuel dira, Daber, ki shomea abdecha, car il n'osera pas invoquer le nom divin. À côté de ces quatre personnages bibliques extrêmement importants, Abraham, Jacob, Moïse et Samuel, qui ont réussi, qui ont dominé l'épreuve, quatre personnages ont échoué. Et si nous avions le temps, nous pourrions effectivement établir les parallélismes. Tout d'abord, le premier, c'est Ésaü. Lorsque Isaac a appelé son fils, Vaïhi, Isaacen Yitzhak, Vatirhena Enav Mereot, Vaïkra et Esav Beno Agadol, Vayomer Elav Beni, Vayomer Hineni. Lorsque Isaac devint vieux, il ne pouvait plus distinguer que la lumière de ses yeux avait faibli, et il appela Ésaü, son fils aîné, il lui dit « mon fils », et ce dernier répondit « Hineni ». En d'autres termes, il y a là, en quelque sorte, la déification du Père. Pour Ésaü, et le Midrash insiste beaucoup sur cette idée, la mitzvah qu'Ésaü a accomplie tout au long de sa vie, de façon absolument parfaite, c'est celle du respect et de l'amour de son Père. Il y a là véritablement le terme de Hineni qui doit s'adresser en réponse à l'interpellation de Dieu. Ici, Ésaü l'emploie en réponse à l'appel de son Père. Deuxième cas, deuxième échec, c'est celui de Joseph. Vayomer Israël et Yosef, Hano Achecha, Roim Bishrem, Lecha Veashlachacha Alehem, tes frères font paître le troupeau, Ashrem, je vais t'envoyer à leur rencontre, Vayomer Hineni, encore une fois, échec qui va être suivi de la vente de Joseph comme esclave, parce que là aussi, la réponse de Hineni est donnée au père, à Jacob, et non pas à Dieu. Troisième cas, et je passe rapidement, c'est celui du Pharaon. Pharaon relate son fameux rêve à Joseph, et il dit à Joseph, « Hineni al-tefat hayor, j'étais au bord du fleuve. » Cette fois, il s'agit de la déification de soi-même, le Pharaon se voit, lui, comme le Dieu créateur de l'humanité, et c'est le texte clair de la prophétie d'Ézéchiel, Li Yehori va à Nirasitini, mon fleuve m'appartient, et je me suis créé moi-même. Quatrième personnage, je passe très vite, c'est Balaam. Balaam qui a essayé de maudire Israël et qui n'y a pas réussi, et par conséquent, au dernier moment, mais pas, au moment où il s'en va, il dit à Balak, Veata, Hineni, Holech El Armi, je m'en vais, Hineni, je retourne chez moi, et je vais te conseiller, et je vais te dire ce que ce peuple va faire au tien à la fin des temps. Ça, c'est la trahison. La trahison la plus épouvantable qui soit, celle du prophète, en d'autres termes, le prophète, au lieu de répandre la parole de Dieu, se prend lui-même pour Dieu et va par conséquent dicter à Balak la conduite que celui-ci devra suivre. Et par conséquent, cette trahison ne peut être suivie que de la mort de ce traître, de ce faux prophète, puisque Balaam, qui était un vrai prophète jusqu'à la fin, a ensuite, comme vous le savez, été tué au moment de la guerre contre Midian. Et la faute, l'erreur d'Adam et Ève par laquelle nous avions commencé, il faudra attendre le roi David qui enseignera à l'humanité tout entière le principe de la pénitence, puisque, c'est par là que je voudrais conclure, au deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 11, Kohamar Hashem, Hineni Mekim Alecha Ra'am Betera, après le crime d'adultère avec Bathsheba et l'assassinat d'Uri le Hittite, le prophète annonce à David que c'est lui, dans la fameuse parabole de la brebis du pauvre, c'est lui qui a pris cette brebis et par conséquent, le châtiment ne saurait tarder. Et ensuite se place la réponse sublime du David, Vayomer David el Nathan, Chatati Lachem. Et David dit à Nathan le prophète, je suis coupable, je mérite la mort. Dans le même verset, Vayomer Nathan el David, Gamachem et Rir Chatatra, Lotamut. Puisque tu as fait pénitence, Dieu a pardonné ta faute, tu ne mourras pas. Par conséquent, nous avons là terminé le cycle, et finalement, par la pénitence de David, il y a non seulement rédemption pour le crime commis par David, l'adultère avec Bathsheba, l'assassinat d'Uri le Hittite, mais aussi le pardon, d'une certaine manière, pour Adam et Ève. J'ai simplement voulu, par ce bref rappel, montrer l'importance de ce premier verset de la Akeda, du récit biblique. Je ne vais pas employer le terme d'Holocauste qui est maintenant employé dans une autre acception, donc de la Akeda, et j'ai voulu effectivement montrer combien un verset semble-t-il anodin au départ. Vayi achar advarim ha'ele ve'elohim nissa et Abraham vayomer elav Abraham vayomer hineni. Combien ce verset est riche d'enseignements, car il comporte déjà l'ensemble des enseignements que la Torah veut donner dans ce chapitre 22. Je voudrais maintenant, dans une première partie de notre après-midi d'étude, donner la parole à Léon Ashkenazi, qui traitera de la lecture traditionnelle du sacrifice d'Isaac, appuyé sur le commentaire du Rav Kalon Moskalman à Levi Epstein, L'Or Vachemesh, je suis très heureux de lui dire d'abord Baruch Haba puisqu'il vient d'Israël et de lui donner la parole.
Mesdames, Messieurs, mes chers amis, mes chers collègues, je vais d'abord très rapidement dire quelle sera la ligne de force de l'analyse que je voudrais vous proposer. Dans une lecture que j'ai intitulée « Traditionnelle », ça signifie dans ma pensée appuyée sur les sources de la tradition juive, et je voulais tout de suite indiquer que ce sera une lecture inhabituelle, et bien que traditionnelle, et peut-être c'est cela l'objectif et la fonction de la tradition, disons, dans son authenticité, de nous dépayser et de nous ramener à l'inhabituel, de la rencontre de ce thème d'enseignement, que l'on appelle habituellement en français le sacrifice d'Isaac, mais nous allons tout de suite mettre entre guillemets ce mot de sacrifice. Cette première ligne de lecture, ce serait pour montrer avec force et évidence, si j'y arrive, qu'on oublie cette évidence première, que le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. L'expression sacrifice d'Isaac véhicule une pseudo-évidence, comme si effectivement, à travers les preuves et à travers ce que je rappellerai immédiatement, la double épreuve parallèle pour Abraham, pour sa part d'un côté, pour Isaac, pour sa part de notre côté, qu'il y aurait eu quelque chose d'irréparable de consommé, et que ce qui est exigé, c'est le sacrifice dans le sens élémentaire habituel que ce terme a en français. Mais en fait, à travers cette double épreuve, celle d'Abraham d'un côté, celle d'Isaac de l'autre, le sacrifice ne s'est pas passé, mais il s'est passé quelque chose. C'est cela que je voudrais essayer d'expliquer en me basant sur les sources de l'enseignement de la Kabbalah, mais sans citer ni étudier directement les sources, par exemple, du Zohar ou d'autres textes kabbalistiques, mais d'un texte qui est disponible dans le Midrash de Gedolot, et c'est pourquoi je l'ai choisi, et qui est l'enseignement du Maor Vachemesh. De poser la question suivante, que s'est-il passé en fait? C'est ce que nous exprimons par l'expression hébraïque de Rak et Latitrak, que je voudrais d'abord traduire très littéralement par le sens que le verbe de la Rakod a en hébreu, c'est-à-dire, premièrement, attaché, c'est le geste du fait que Abraham a attaché son fils sur l'autel, et un sens plus direct, plus plein, de ligoter. Et c'est pourquoi, dans une des études, le titre que je sois jugé, ce sera la ligature d'Isaac. Le fait que Isaac a été attaché, mais pour réprimer ce qui dans son identité devait être ligoté. Et ça nous mène très rapidement au premier point de l'analyse que je voudrais vous proposer. Que s'est-il passé en réalité puisque aucun sacrifice n'a eu lieu? Et quel était l'objet de l'événement qui est véhicule de cette double épreuve pour Abraham d'un côté, pour Isaac de l'autre? Je me baserai donc sur, pour toute lecture, il faut un postulat de lecture, pour ce qui est un des postulats de lecture de la tradition kabbaliste, c'est celle qu'elle apparaît, plus en filigrane, dans le commentaire du Noam Vachemuch. C'est que les événements que le récit biblique raconte dévoilent quelque chose. Le postulat de la lecture traditionnelle, c'est qu'il dévoile dans le monde de l'histoire que nous, les créatures, les hommes, vivons, et dont nous vivons, et dont nous vivons l'histoire, il dévoile un conflit entre les absolus qui régissent l'histoire que nous vivons au niveau de l'existence, au niveau de la réalité. Quelque chose se dévoile d'un débat intérieur à la racine des absolus et que vivent les héros que sont les personnages bibliques, les personnages du récit biblique. Et à différents niveaux, bien entendu d'abord à ce niveau massif de l'émergence de l'identité des patriarches qui sont le premier dévoilement de ce que nous appelons en hébreu les midot, c'est-à-dire les manières d'être, les modalités d'être, des médiations à travers lesquelles Dieu unique dirige le monde multiple au niveau des péripéties et des manières d'être et des manières d'exister. Mais à d'autres niveaux, peut-être un peu plus dilués et plus généraux, tendant à l'universel, le niveau des péripéties historiques que la descendance des patriarches vit, qui font son existence au sein même de l'histoire de l'universel humain. L'objet du récit historique biblique n'est pas de nous raconter le passé, les mots ayant la force trop simple, mais de nous dévoiler à travers l'histoire vécue et assumée par une certaine manière d'être que le texte biblique nomme Israël, de nous dévoiler ce qui se dévoile dans le monde de la création, donc de la créature, de ce qu'est le conflit des absolus à la racine des médiations par lesquelles le Créateur dirige l'histoire de son monde. Or, le premier thème qui apparaît à travers ce principe de lecture, c'est le fait que très rapidement, dès la naissance d'Isaac, et Isaac arrivé à l'âge de la maturité, et Isaac avait 37 ans, selon le Midrash, au moment où va se passer la péripétie que ce récit relate, se trouve existant dans le monde deux manières d'être sadique, deux manières d'être juste. Abraham, qui est le juge d'une première modalité d'être par laquelle Dieu révèle sa volonté de providence, et que nous nommons en hébreu la mida de chesed, c'est-à-dire la vertu de charité. Je reviendrai sur la définition de toutes ces catégories qui sont familières à ceux qui déjà étudient le Midrash. Donc, une première manière d'être le tzaddik, c'est Abraham, l'homme de la vertu de charité, et puis voilà que son propre fils, en sélection d'identité parmi toutes les descendances possibles théoriquement de ce même Abraham, mais ce Bincha Yechidecha Asher Ahavta et Yitzhak, vous avez certainement relu le chapitre 22, et que Dieu, interpellant Abraham, lui demande de préparer à mettre en question dans cette épreuve Bincha, ton fils. Le Midrash se répond à Abraham, lequel? J'en ai deux, c'est Ishmaël d'un côté, Isaac de l'autre. Et qui Yechidecha, ton unique, et Abraham continue, lequel? J'en ai deux, chacun est unique pour sa mère, tous les mots ayant une importance considérable. C'est d'un côté Ishmaël, c'est de l'autre côté Isaac. Dieu continue, Asher Ahavta, celui que tu aimes. Et Abraham répond, est-ce qu'on peut partager le sentiment des entrailles? Je les aime les deux. Alors le texte continue, Dieu continue, et qui sera Isaac. Il y a donc une sélection d'identité dans la mise en question de l'épreuve à travers cet escalier, escalade, si j'ose dire, de l'interpellation de l'épreuve dans l'épreuve. Cette deuxième forme d'être sadique, d'être juste, c'est Isaac, fils d'Abraham. Et c'est là que le mystère commence. Comment le juste de la vertu de charité qui est Abraham, et j'aurai à revenir sur la cas d'identité de ce premier tzaddik, a mis au monde une deuxième manière d'être le tzaddik devant le même créateur unique, le tzaddik de la vertu de rigueur, de la vertu de justice absolue. Et voilà que nous nous trouvons dans une charnière très importante de l'histoire de ce dévoilement d'être, où deux tzaddikim sont en présence, mais dont la vertu à l'échelle de l'absolu est incompatible l'une à l'autre, dont les deux vertus sont radicalement incompatibles. Et il faut donc que l'une cède le pas à l'autre pour l'avenir, non seulement des engendrements, mais l'avenir des dévoilements de la volonté du Créateur unique, qui, si nous suivons bien ce principe de lecture, se dévoile d'étape en étape jusqu'à arriver à l'unité du dévoilement qui culminera avec David. Je dois vous dire très, très brièvement que nous ne sommes pas concertés sur la ligne d'introduction de ce thème, mais mon point d'arrivée, si j'ose dire, va être le même que celui de M. le professeur Sirac, que j'ai aussi, pour ma part, il m'a dit Baruch Abba, le plaisir de lui dire aussi réciproquement Baruch Abba dans la maison. Et si vous me permettez ces coïncidences bibliques, de la même manière que Shmuel, le prophète, a introduit David, en fait, comme David était de la tribu de Yehuda, donc il y a convergence non observée. Et c'est un moment extrêmement important. Voici qu'à ce moment de l'histoire, sont en présence deux tzaddikim, deux justes. Mais quelle est vraiment la volonté du Créateur unique comme principe de providence, c'est-à-dire de direction de l'histoire des hommes et donc comme dévoilement de sa volonté de Créateur? Quel est le type d'identité du juste ultime que le Créateur voulait faire émerger à travers les engendrements des états de l'histoire, les tolados? Bien, le premier principe que je voudrais mettre en évidence dans ce premier point, c'est d'abord de nous mettre en mémoire, en connaissance, que vraiment ces deux vertus sont à l'échelle de l'absolu, deux absolus authentiques. La vertu de charité, pour sa part, est authentiquement de l'ordre de la volonté du Créateur. La vertu de justice stricte pour la sienne est authentiquement de l'ordre de la volonté du Créateur. Et cependant, tant dans l'essence que dans l'existence, si j'ose dire, elles sont non seulement incompatibles, mais contradictoires. Et il y a ici une épreuve inéluctable dès que ces deux formes de juste sont en présence. Quelle en sera l'issue? C'est l'objet du récit. Il n'y aura pas sacrifice, mais dans le sens habituel du terme, mais il se passe quelque chose d'important, que je voudrais donc relater du point de vue de ce principe de lecture. Et il est nécessaire de mettre cela en évidence, le caractère inéluctable de l'épreuve, à travers laquelle de ces deux manières d'être le juste de la volonté du Créateur par le projet ultime du Créateur unique. Ou par l'unité des valeurs, l'unité des vertus, qui finalement se dévoilera dans la troisième étape, c'est-à-dire l'identité de Jacob. Mais revenons à cette étape où Abraham et Isaac sont en présence. Et comme je le disais tout à l'heure, ce caractère inéluctable a, et c'est dans l'enseignement de la Kabbalah, les sources auxquelles je fais simplement allusion, à tous les niveaux d'être, il y a un niveau métaphysique de la confrontation du principe de liberté auquel se rattache la vertu de charité, et d'autre part le principe de détermination absolue auquel se rattache la vertu de rigueur. Et au niveau de l'histoire et du problème que la société humaine a à résoudre dans la relation des personnes entre elles, ces deux valeurs et ces deux vertus sont indispensables pour que la relation d'autrui à autrui puisse être fondée. D'une part, la vertu de charité, l'autre passe avant moi, tout simplement parce qu'il est autre, et c'est ainsi qu'Abraham connaît le visage du Créateur, celui qui donne à autrui, celui qui crée. Le Dieu d'Abraham, c'est Eloqué Abraham, entendu dans cette définition stricte de la première étape de l'engendrement de l'identité Israël, le Dieu d'Abraham, c'est la vertu de charité. C'est le fait de reconnaître qu'il y a une source à la création, qu'un être qui donne l'être à l'ex qui reçoit. L'ex qui reçoit étant la créature. C'est exactement ce que les formules habituelles du Midrash entendent lorsqu'ils nous disent que le premier homme ayant reconnu qu'il a un créateur, c'est Abraham. Ce premier homme qui fonde au niveau des vertus morales la vertu de charité. Mais lorsque la conscience humaine est en intention et en action et en acte est occupée à la vertu de charité, elle viole littéralement la vertu de justice. Ceci pour indiquer que vraiment ces deux absolus, authentiquement absolus tous les deux, sont contradictoires et qu'il y avait là un problème inéluctable de mise à l'épreuve. De même, lorsqu'un homme se conduit dans l'ordre de la vertu de justice stricte, il viole la vertu de charité. Il la contredit. Je pense que cela est suffisamment clair, parce que la charité consiste à protéger autrui parce qu'il est autrui, même criminel, et à la limite surtout criminel. Ce que j'appellerais les aberrations de la charité. Le mot existe en hébreu, c'est avera, des crimes de la charité. Et d'ailleurs, nous avons dans le vocabulaire hébreu un sens du mot chesed qui signifie aussi crime, et dans quel sens cela pourrait être éclairé. C'est-à-dire, si la charité est dans son absolu, ne tenant compte en rien, ni en aucune manière, des autres absolus, des valeurs de médiation du Créateur unique, alors cette charité toute seule risque d'arriver à la protection de tous les crimes. Et ceci pose un problème, non seulement théorique, au niveau métaphysique, si vous voulez, un problème d'ontologie indéniable, mais pose un problème moral et un problème historico-politique tenant compte de la morale et de la philosophie des absolus. Ainsi, et je voudrais très rapidement vous mettre en évidence un autre passage du récit biblique concernant la capacité de charité d'Abraham. Nous montre bien à la limite cette hypertrophie de la charité demandant à être réprimée. Un des passages les plus célèbres, qui est un de nos titres d'orgueil de l'authenticité de la vertu de charité en Abraham, c'est le plaidoyer d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Mais pour qui plaidera cette charité dans l'absolu? Et Dieu la réprimande. Dieu discute avec Abraham pour lui donner, si j'ose dire, une leçon de charité dans la vérité, une leçon de charité authentique. Pour qui est ce plaidoyer d'Abraham? Et je le répète, que nous en sommes fiers, sinon orgueilleux, pour les criminels de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire, si on espère la charité, elle demandera que restent dans le monde les crimes les plus énormes. Parce que la charité doit protéger autrui, quel qu'il soit, fût-il criminel, et à la limite, c'est d'un humour, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas d'ironie dans la parole biblique, mais c'est là d'un humour colossal, considérable. Pour qui doit plaider l'homme charitable? Pour le criminel. Mais Abraham n'est pas Israël. C'est la première étape qui mènera à l'identité d'Israël. Le récit ne s'arrête pas à Abraham. Si j'ose dire, un sectateur du Dieu d'Abraham qui ne serait que cela, eh bien, serait l'avocat de Sodome et Gomorrhe. C'est ça la charité, lorsqu'elle est authentique, absolue, limite d'elle-même, mais j'ajoute une série d'adjectifs péjoratifs, hypertrophiés, irresponsables, c'est la protection des criminels. Un sectateur du Dieu d'Abraham ainsi défini, d'un Abraham qui ne serait pas père d'Isaac, père de Jacob, serait complice de tous les crimes par vertu de charité. Et il y a dans l'histoire cette complaisance qui est dès la racine, dénoncée par le récit. La charité, oui, et elle doit être authentique et absolue. Mais attention à la complaisance, parce que ça veut dire que Abraham doit prier pour Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'on sait ce que dit la Bible, ce que dit l'histoire, ce que dit la Bible de la capacité de crime des hommes de Sodome et de Gomorrhe, on est alerté. Je citerai ici en particulier le Rav Aharon de Breslav, qui parle de ce thème dans un tout autre texte, et qui dit, en tant que chassid, en tant qu'homme de chesed, Abraham doit être saint. Il doit avoir pitié, compassion, et donner protection aussi aux criminels, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être criminel, et il faut prier pour lui. Mais ça, c'est en tant que chassid, en tant que Dieu de la piété et de charité dans la vie intérieure spirituelle, de l'authenticité, de la conscience. Mais dans l'histoire, dans la société, alors, il ne faut pas protéger le criminel. Si Abraham est responsable de la sécurité d'autrui, alors c'est un crime d'être charitable que cela à ce niveau. J'espère avoir suffisamment, bien que rapidement, indiqué cette dialectique. Il y a effectivement une tension entre la vie intérieure de la spiritualité pour qui la charité doit être totale, sinon elle n'est pas, et d'autre part l'insertion dans l'histoire, pas seulement cet unique absolu, cet absolu de charité commune régit la réalité, mais où un faisceau d'absolu demande tous ensemble à être réalisé. Et en privilégier un au détriment des autres, c'est d'aboutir à la catastrophe morale, spirituelle et donc aussi sociopolitique. C'est-à-dire que sacrifier une valeur, le langage est ainsi, sacrifier une valeur en sacrifiant les autres, c'est un échec d'une vertu prise pour elle-même. Et cette analyse, nous pourrions la faire, je la fais beaucoup plus rapidement, aussi pour l'homme qui ne serait que spectateur de Isaac, c'est-à-dire que homme de la justice Christ. Et ce personnage existe dans le récit biblique, nous allons le rencontrer. Le professeur Silas l'a cité tout à l'heure, dans son échec, c'est Ésaü. Et effectivement, un homme peut devenir le pire, si j'ose dire, des assassins, lorsqu'il est uniquement le serviteur de la justice implacable qui ne tient pas compte d'autrui comme autrui, comme le faisait la charité. Oui, mais cette analyse veut aboutir. On peut, au nom de la loi, condamner n'importe qui. Je cite souvent, en parlant de ce thème, une des anciennes éditions de Shurhanao, du Code, où dans la première page, il n'y avait que trois lettres. Aleph, Shin, Bet. Et ça, je pense à autre chose. Aleph, Tav, Shin. Et ça intrigue un peu les bibliographes, je ne sais plus comment il faut dire. Mais ça voulait dire Al-Tehi Shoté, Al-Tachi. En hébreu, ça signifie ne sois pas fou. Tu vas manier les codes, c'est à manier avec précaution. Si tu te prends au sérieux, tu peux assassiner le monde entier. On peut ainsi, quand le code et en étant l'homme de la justice stricte et absolue, devenir le pire des assassins. De la même manière qu'en étant l'homme de la charité exclusive, ne refusant par souci d'entièreté, de tenir compte des autres impératifs d'absolu qui gèrent la vie, qui gouvernent la réalité, devenir complice des pires crimes. Voilà donc quel est le thème qui va nous apparaître. Il y a débat, perplexité. Il y a perplexité. Abraham se connaît comme étant le juge intégral de la charité intégrale. Et nous avons vu quel est le récit de son histoire dans les Devarines, dans les événements précédents, dans les récits précédents. Il est cet homme de charité capable d'aller jusque-là.
Faire la guerre et la gagner pour sauver l'ordre. Et l'ordre, c'était la caricature d'Abraham. Il est capable de ce plaidoyer énorme, d'interpeller le Créateur unique par cette expression si forte, Khalilah, la Rassol d'Abarkadé. Ce serait de profaner que de condamner une civilisation, fut-elle Sodome et Gomorre, sans tenir compte de la vérité du jugement. Et tu lui réponds, bon, jugement, on va faire. Et tu verras bien qu'elle est déjà condamnée, cette civilisation. Eh bien, il y a donc perplexité profonde. Abraham, père d'Isaac, Isaac, fils d'Abraham, sont en perplexité absolue. Et il y a ce que le Midrash appelle les Hirbourés de Varim. L'un et l'autre se demandent, mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Que l'homme soit comme Abraham ou que l'homme soit comme Isaac? Abraham vit l'expérience et l'existence de l'homme de charité.